J'ai envie de vous parler du don d'organes parce que, évidemment, en période de COVID, c'est malheureux, mais on se rend compte que la pandémie a ralenti le don d'organes. Il y a toujours environ 800 personnes là, qui sont en attente d'une greffe au Québec. C'est un creux au mois d'avril là, qu'on a connu comme on avait rarement connu. Et là, même si on nous dit que ça a repris un petit peu, il y a toujours le problème que le dossier est pas forcément partagé en assez grand nombre. Je vous en parle, moi, régulièrement à l'occasion de la Journée nationale du don d'organes. C'est demain, 17 octobre. Je vous en parle aussi parce que depuis quelques années, depuis que mon conjoint Thierry a été sauvé, ça va faire 7 ans en novembre prochain, il a vraiment été sauvé. Il est aujourd'hui en vie grâce à un don de foie et on remerciera jamais assez son donneur et la famille de donneurs. Pour cette chance à la vie que nous avons eue, nous, en tant que famille. Et il faut en parler. C'est pour ça que toute occasion est bonne pour le faire. Aujourd'hui, je vous en parle parce qu'il y a le défi également Chaîne de vie qui encourage la discussion en famille, surtout aussi auprès des jeunes, dans les écoles, ce qui permet à des enseignants de discuter du don d'organes et ces jeunes-là ensuite vont en parler dans leur famille. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des Québécois qui ont la vie sauve chaque année, je viens de vous le dire, mais quelqu'un qui peut en témoigner encore plus, c'est Sandra Salvoni, parce qu'elle va nous parler du don vivant. Sandra a une plus jeune sœur qui est avec nous également, Linda. Toutes les deux sont là pour nous parler de la greffe qu'a reçue Sandra. Bonjour Sandra.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes greffée du rein, ça va faire, en fait, vous avez reçu un rein de votre jeune sœur le 18 octobre 2005, ça va donc faire 15 ans ce dimanche.
Exactement, ça va être un gros week-end de festivités par le défi Chaîne de vie, mais surtout parce que ça fait 15 ans là, que Linda m'a donné généreusement un rein à ce moment-là.
Parlez-moi, Sandra, de votre situation de santé avant cette greffe. Là. C'était quoi la vie pour vous à ce moment-là?
Ben, écoutez, avant, il faut dire que j'avais 27 ans quand j'ai été greffée. Et quelques années avant, je faisais des suivis pré-greffe qu'on appelle. Et puis, en fait, à 26 ans, j'ai eu une chute de ma fonction rénale de façon assez drastique qui a fait en sorte que j'ai dû faire de la dialyse. Donc, de l'hémodialyse 3 fois semaine à l'hôpital. Bon, j'étais assez jeune à ce moment-là, puis pour moi, c'était comme inconcevable que je passe le reste de ma vie ou même si c'était le temps d'une greffe, en attente d'une greffe en hémodialyse. Et j'ai fait le choix de faire la dialyse à la maison, qu'on fait la dialyse péritonéale.
Et donc là, à partir de quand on vous a dit, Sandra, si vous n'avez pas une greffe, ça va être de plus en plus difficile pour vous, la greffe est la seule solution?
Bien, en fait, on a commencé à me parler de ça, c'est pour ça que je vous parle de pré-greffe, Isabelle, parce que il y a tout un processus dans les hôpitaux, puis surtout quand on est jeune, on est un peu, on se croit invincible, parce que moi, j'avais de la difficulté à l'effort, mais à part la difficulté à l'effort, j'avais pas trop de symptômes. Mm-hmm. Donc, il a vraiment fallu que ma situation à 26 ans vraiment chute drastiquement pour que là, je vois. Puis même à ce moment-là, je résistais encore. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment, il y a comme une forme de déni, on va dire. Là, il y a un processus de deuil aussi dans tout ça. Mais vraiment, c'est à 26 ans qu'on m'a dit, ben la greffe va être nécessaire. Là, ouais. Là tu vas être sur la dialyse.
C'est ça. Et au début, Sandra, vous vous êtes dit, hey, là, c'est pas vrai que je vais demander à ma famille ou à mes proches de faire un don d'organes, parce que déjà, votre sœur vous en parlait. Linda, vous êtes là?
Oui, bonjour Isabelle.
Bonjour à vous. Vous êtes la sœur de Sandra, donc une sœur plus jeune. Vous étiez tout de suite, vous, disposée à lui donner un de vos reins. Là. Vous vous êtes dit, moi, j'en ai deux. S'il y en a un qui peut te servir, je te le donne.
Oui, effectivement, c'était une option qui était somme toute facile pour je trouvais ça évident là de faire ce don-là de mon vivant. J'étais en pleine santé, puis si les examens fonctionnaient, si j'étais compatible, pour moi c'était d'une évidence là qu'il fallait pas attendre plus longtemps un don cadavérique. Pour moi, c'était une évidence là. Je sais que ma sœur c'était pas sa première option, mais pour moi, c'était l'option l'option tout indiquée, là.
Moi, je trouve ça tellement impressionnant, les gens qui font un don d'organes de leur vivant. Je trouve que c'est une... Ça, là, c'est de l'altruisme à une échelle vraiment mille, exposant mille, là. C'est tellement incroyable. Évidemment, on peut dire, bon, ben, quand on aime quelqu'un, ça tombe sous le sens, mais c'est pas si évident pour tout le monde, là. Il faut quand même, il faut y réfléchir. Vous êtes policière, c'est bien ça, Linda?
Oui, exactement.
Vous vous êtes jamais dit, bon, vous étiez plus jeune aussi, à remarquer, mais quand même, vous vous êtes jamais dit, peut-être que ça va avoir une conséquence plus tard dans ma vie personnelle. Vous avez qu'un rein, vous?
Oui, effectivement, là, il m'en reste juste un, mais non, ça m'est jamais venu par l'idée que j'aurais des conséquences négatives. En fait, j'en ai pas non plus, là, mais ça m'est jamais traversé vraiment l'esprit. C'est sûr qu'il y a un processus avec les médecins, avec les psychologues qui s'assurent qu'on fait le choix pour les bonnes raisons et puis tout ça, et que, tu sais, que ça va bien aller. Mais et ces gens-là se veulent vraiment rassurants. Par contre, j'avais pas besoin nécessairement de passer à travers ça là, pour confirmer mon choix. Pour moi, je sais pas, ça s'est apparu vraiment comme une évidence de faire ça, que ça allait bien aller, puis que ma sœur avait besoin de ça. Puis pour moi, c'était inconcevable là, qu'à cet âge-là, qu'elle soit prête à faire de la dialyse, soit à l'hôpital ou à la maison. Je comprenais pas, là. Je pouvais pas croire qu'à cet âge-là, puis je dis pas que c'est mieux non plus plus vieux, mais à 20, 25, 27 ans, 30 ans, pour moi, c'était inconcevable. Il fallait faire quelque chose, puis que ça arrive vraiment vite, là. Donc, c'est ça. Une fois que j'ai fait ce choix-là, une fois que ma sœur a accepté aussi, parce que ça n'a pas été évident pour elle d'accepter mon don, psychologiquement, là, c'est pas quelque chose que je peux la comprendre, là. Peut-être qu'avoir été dans sa position, j'aurais eu la même réaction. J'aurais dit non, je vais attendre un coup que c'est sans passer par le don vivant. Mais pour moi, c'était non. Là. C'était on y va. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Là. Si je suis compatible, c'est sûr qu'on y va le plus rapidement possible.
Oui. Sandra, vous avez fini par accepter, mais au début, là, vous vouliez absolument pas que votre sœur.
Oh non. Non, moi, je voulais absolument pas. Puis en fait, c'est pour dire que mon père a fait... ma sœur a vraiment insisté, mais mon père a fait tout le processus aussi. Bon, à la dernière minute, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais autour de moi quand même des gens qui étaient prêts à donner, puis moi, je comprenais pas cette réalité-là. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Puis surtout, venant de ma sœur, bon, je m'étais fait une idée avec mon père, mais avec ma sœur plus jeune qui n'a pas encore fondé sa famille, j'avais comme l'impression de s'il arrive quelque chose, comment je vais réagir, moi?
Ouais, vous aviez l'impression que c'était trop lui demander, puis vous disiez, mon Dieu, je m'en voudrais tellement.
Ben oui, je voulais comme pas regarder cette réalité-là, tu sais, c'est une possibilité, puis on nous en parle, mais en même temps, on nous en parle pas trop, parce que sinon, personne ne le ferait, mais les chiffres sont quand même assez, révélateurs, donc, sont positifs, là. Donc, je me suis fait cette idée, surtout après quelques, j'ai fait des péritonites, en fait, quand on fait de la dialyse, puis à un moment donné, c'est là que ma sœur a fait, là, ça suffit.
Ouais.
J'ai dit, OK, c'est beau.
Ouais, voilà.
Parce que j'étais plus, C'est demandant.
Ah non, c'est sûr. Sans un don d'organes, je pense que vous auriez été pas mal branché sur une machine là, pour...
À tous les jours, ouais. Oui. À tous les jours, j'aurais été branchée sur une machine. En fait, ça a été ma réalité pendant un an à la maison. Donc, la nuit, ça se faisait la nuit, mais quand même, ça handicape une certaine qualité de vie, on va se le dire.
Depuis, Sandra Salvoni, vous êtes très impliquée, évidemment, pour passer le message sur le don d'organes. Pourquoi, d'après vous, c'est important d'en parler avec ses proches?
Mais en fait, c'est super important d'en parler parce que moi, OK, autour de moi, c'est un don vivant, c'est particulier parce qu'on en parle quand c'est un don vivant. Mais sinon, il y a un tabou souvent autour du don d'organes. On connaît pas qu'est-ce que c'est quoi les impacts. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis pour moi, c'est vraiment, moi, j'ai eu la chance d'avoir un don de ma sœur, mais pas avoir eu ma sœur qui était compatible, je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé dans les faits. Donc, d'avoir de plus en plus de donneurs, parce qu'on le sait, c'est 1% de la population qui se qualifie pour être donneur potentiel, c'est même si on veut. Puis en fait, même à ça, il y a la famille, en fait, qui pourrait toujours dire qu'il y a le dernier mot. Donc, la famille a le dernier mot dans les décisions de don d'organes. Mmh. Et ça, c'est malheureux parce qu'il y a plusieurs personnes qui... Ben, c'est malheureux. Je dis c'est malheureux, mais en même temps, je le comprends parce qu'on manque d'éducation au sujet, à ce sujet-là. Et c'est vraiment la mission du défi de chaîne de vie, c'est vraiment d'éduquer à la base, chez nos jeunes, l'éducation au don d'organes. Puis là, on contamine, si on peut dire un peu, les milieux familiaux pour en parler, pour ouvrir la discussion. Puis c'est là, c'est vraiment, c'est un super programme. Je suis vraiment, vraiment contente de m'impliquer à travers le défi chaîne de vie.
Et puis, puisqu'on en est là, ben dites-nous, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Parce que c'est important aussi d'avoir, de financer ce programme-là. Hein. C'est financé grâce aux dons du public aussi. Puis l'idée, c'est de donner des outils aux enseignants et aux enseignantes. D'ailleurs, c'est l'idée d'une enseignante que de faire ça au secondaire, en secondaire 4, entre autres. Comme ça, en secondaire 5, les jeunes peuvent aussi continuer d'en parler. Et ça fait des petits, comme on dit. Donc, pourquoi c'est important que les gens embarquent dans le défi chaîne de vie? C'est à Montréal et un peu partout là, au Québec, dans les montagnes. Vous êtes porte-parole, coordonnatrice d'ailleurs pour le défi chaîne de vie de Montréal, Sandra?
Oui, exactement. En fait, cette année, c'est un peu particulier, vu le contexte. Donc, il n'y a pas nécessairement de rassemblement, mais on compte sur le rassemblement psychologique et systémique, si je peux dire, pour le défi qui se tient effectivement demain dans la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et c'est un super beau timing. Ça se tient dans 16 différentes régions. Et moi, je suis la porte-étendard et coordonnatrice de la région de Montréal qui se fait au Mont-Royal. Et on invite les gens à donner généreusement, bien entendu, à travers le site Internet de chaîne de vie. Et c'est parce que ces fonds-là vont vraiment outiller les jeunes, parce que là, on n'est pas dans toutes les écoles. Ce qu'on veut, c'est que toutes les écoles aient ce programme-là au secondaire, effectivement. Ça se donne dans des programmes, des cours d'anglais, en fait, ce programme-là. Donc, c'est un super programme éducatif qui, pour moi, a une visée vraiment incroyable quand on parle des jeunes. Je vais vous dire, Isabelle, moi, j'ai entendu parler de ça par un étudiant, Frédéric Boucher, qui travaillait avec moi dans mon emploi chez InPower. Et il m'a dit, Sandra, t'es greffée? Je dis, ben oui, je suis greffée. Puis je dis, ben je travaille avec Lucie Dumont, qui est la fondatrice, en fait, du défi. Et elle me dit, elle serait super contente de t'avoir comme au sein de l'équipe. Je dis, ah ouais, toi, t'as été greffée, Frédéric? Il dit, non, moi, j'ai pas été greffée. Je dis, ben, il y a quelqu'un proche de toi. Non, j'ai juste suivi le programme. Et j'étais fascinée, Isabelle, mais fascinée de voir un jeune parler du don d'organes comme ça. Je me dis, wow, quel magnifique porte-parole. Donc, imaginez, ça, c'est quelqu'un qui est rendu à l'université, puis il l'a suivi au secondaire. Donc, ce qu'on peut faire, l'impact qu'on peut avoir est vraiment incroyable quand on commence tout de suite à éduquer les jeunes dès le secondaire sur le don d'organes.
Ouais, vous avez tellement raison et on va parler après la pause. On a le témoignage d'une jeune fille de secondaire 5, justement, Alika Tanguay, dont la grand-mère a été greffée et qui va nous dire comment elle a pu, comment elle, aujourd'hui, pour elle, c'est important de parler du don d'organes. Moi, je vous avoue, Sandra Salvoni et Linda, merci pour ce don vivant que vous avez fait à votre sœur, parce que je pense qu'on remerciera jamais assez les donneurs. Moi, j'ai toujours une boule dans la gorge chaque fois que je parle de ce sujet-là, parce que je sais que je suis passée près, très près de perdre mon conjoint, puis je sais que mes filles, mes enfants ont failli perdre leur père, alors... C'est toujours super émotif pour moi, ce moment-là. Et chaque fois que j'en parle en nombre, je trouve que, autant d'habitude, ça va, mais quand j'aborde cette question-là, je suis toujours un peu plus émotive. Alors, merci en tous les cas de participer à la communication de ce message-là, parce qu'on n'en parlera jamais trop. Et après la pause, d'ailleurs, on va parler au docteur Pierre Marcellet, qui est intensiviste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il est coordonnateur pour le don d'organes au CIUS du nord de l'île de Montréal. Il va nous dire un petit peu comment la pandémie a affecté le don d'organes au Québec. Et va nous dire aussi, avec le COVID, là, je pense que Sandra, vous l'avez eu. D'ailleurs, restez avec nous quand même, Sandra, si vous voulez bien, et Linda. On revient tout de suite après ceci. Les gens qui nous écoutent, si vous êtes sensibilisés par la cause, si vous avez une histoire à nous raconter, si vous êtes greffé, si vous êtes proche d'un greffé, si vous êtes famille de donneurs, aussi et peut-être surtout, ne vous gênez pas pour nous appeler. 514-790-9850. De l'extérieur, vous pouvez me joindre en faisant le 1-866-790-9850. Juste une stat comme ça pour vous faire réfléchir. Vous savez, il y a toujours à peu près 800 personnes, je vous dis, là, qui en ce moment attendent une greffe qui pourrait leur sauver la vie. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui meurent en attendant d'être greffées. Un seul don peut sauver 8 vies et aider 15 autres personnes. Tu n'as pas souvent l'occasion d'aider vraiment le monde dans ta vie, là. Mais là, oui. À tout de suite.
Donne pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donne pour donner, c'est la seule façon de vivre.
Les chiffres viennent de sortir là, sur les nouveaux cas d'infection par COVID-19. Québec parle de 1055 nouveaux cas et le nombre de décès total, c'est 6018. Alors voilà pour ceux qui compilent les statistiques. Je vous rappelle qu'à 13h, ce sera bien sûr la diffusion sur nos ondes de la conférence de presse habituelle du premier ministre François Legault avec le docteur Arruda. Aujourd'hui, c'est Christian Dubé, ministre de la Santé, qui va être présent. On parle du don d'organes. Pourquoi c'est si important d'en discuter avec nos familles? C'est parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir accès à une deuxième chance à la vie. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 799 personnes là, qui sont présentement en attente d'une greffe qui peut leur sauver la vie. Et quand on sait qu'un seul don peut sauver 8 vies et aider 15 autres personnes, ça vaut la peine de dire, ben la journée où moi je suis plus là, ben je peux peut-être aider d'autres familles. Le docteur Pierre Marcellet connaît bien le dossier. Il est fondateur du défunt centre de prélèvement de l'hôpital du Sacré-Cœur qui a été fermé il y a un an. Bonjour, docteur Marcellet.
Bonjour, Isabelle.
Je pense qu'on peut le dire, en temps de pandémie, évidemment, il y a moins de greffes, hein, forcément.
Oui.
Expliquez-nous un peu de quelle façon tout le dossier de la greffe, finalement, a été un peu mis de côté.
En fait, il y a une partie, en fait, c'est directement relié à la pandémie, comme vous l'avez dit. Vous savez, la lourdeur de la crise sanitaire sur le système de santé, il est sans précédent. On l'a vu partout, le personnel est épuisé, les gens sont stressés, les infirmières, tous les professionnels de la santé ont peur de ramener la maladie même à la maison, on vit les stress aussi des fermetures d'école au printemps, et ça fait en sorte que dans les grands centres où il y a plus de donneurs potentiels, il y a un stress et une pression tellement importante qui est liée à la crise sanitaire, que déjà le don d'organes était perçu avant la crise sanitaire comme étant bien secondaire pour bien du monde, mais là, ça devient très, très, très secondaire de même proposer l'option du don d'organes. Ça, c'est une chose en soi, que là, on a d'autres chats à fouetter, puis, bon, ben la cause perd en importance. Il y a des familles qui sont moins approchées. Il y a peut-être aussi eu des refus, mais ça, c'est des chiffres que je peux pas savoir parce qu'on le saura plus tard. Est-ce qu'il y a eu plus de refus familles? Je peux pas dire, mais il y a eu beaucoup moins de greffes, ça, c'est clair. Ça, c'est répertorié. L'autre chose aussi, puis que ça, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est une bonne chose. Il y a eu moins de décès par traumatisme.
Ouais.
Le ralentissement général de la province a fait en sorte qu'il y ait moins d'accidents, et ça, c'est heureux. Mais les donneurs décédés par traumatisme crânien sont une petite minorité. Fait qu'il y a eu une petite diminution de décès, tant mieux. Moins de donneurs potentiels, ben ça va avec. Mais la très grande majorité des donneurs d'organes sont des gens qui sont décédés de causes non traumatiques. Et ça, il y a eu une diminution majeure aussi. Et je pense que la situation, vous savez, les hôpitaux étaient presque en zone de guerre ce printemps. Puis bon, ben ça a eu des répercussions sur tout là.
Ouais.
Ça fait partie des dommages collatéraux.
Ouais, effectivement, je lisais un communiqué de Transplant Québec de cet été où il disait qu'il y avait une diminution de 50% du nombre de donneurs d'organes et de 60% des transplantations. Est-ce que ça a repris avec le déconfinement, vous diriez, Dr Marcellet?
Il y a eu une petite reprise au mois de septembre, mais là, maintenant, depuis le reconfinement, je ne peux pas vous dire. Moi, je suis convaincu que ça va rediminuer parce que n'importe quel facteur qui est alourdi une situation dans un hôpital. Déjà qu'une situation sans en situation normale, en dehors d'une situation de crise, le don d'organes est extrêmement problématique dans un hôpital. J'exagère pas quand je dis ça. Là. Un donneur d'organes, ça prend la place d'une personne qu'on pourrait sauver la vie parce qu'on saisit mal l'importance d'un donneur d'organes qui pourrait lui aussi sauver des vies où les médecins sont inconfortables ou les professionnels sont inconfortables avec à l'approche d'une famille. Donc, il y a beaucoup d'éducation, sensibilisation à faire, même déjà chez les professionnels de santé.
Est encore là, Dr Marcellet, à essayer de convaincre le personnel de la santé que c'est important, le don d'organes?
À mon avis, c'est le nerf de la guerre. À mon avis, là, ça, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, là, le potentiel au Québec, il est de quatre fois ce qui est fait, ce qui est réalisé. Ça, il y a des documents qui sont publiés, là. Le potentiel au Québec, au Canada, c'est plus de 80 donneurs par million. Plus de 80 par million. Et on en fait, une bonne année, on en fait 20 par million. Alors, on pourrait multiplier par 4. Et où ils sont, les 60 donneurs par million qu'on ne voit pas? Bien, c'est justement, c'est tous ces personnes que même les professionnels n'ont pas vu, n'ont pas été capables de déceler qu'une personne qui décède d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque, c'est un donneur potentiel, c'est une famille qu'on pourrait approcher pour proposer l'option. Mais les gens le savent, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont là, c'est des donneurs manqués, des familles à qui ils ne se sont pas vus offert. Ce n'est pas des familles qui ont refusé, c'est des familles à qui on n'a même pas proposé l'option, qui ne savaient pas que ça s'appliquait dans ce cas-là.
Ouais.
Et ça, il y a énormément d'éducation à faire.
Ouais. En même temps, bon, le côté positif, si on veut être quand même dans la lumière un peu, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts aux dons vivants. On avait tout à l'heure les deux sœurs, Sandra et Linda Salvoni, là, qui... Linda a donné un de ses reins à sa sœur Sandra. On a également une auditrice là, qui nous appelle, Martine, dont la fille a été greffée. Elle a reçu un rein. Bonjour, Martine.
Bonjour.
Racontez-moi rapidement.
C'est pas mon intention de passer à la radio, finalement. je suis surprise, en tout cas. Non, c'est ça. Moi, ma fille a été diagnostiquée avec l'insuffisance rénale chronique alors qu'elle avait 5 ans.
Mm-hmm.
Mon mari et moi-même, on a fait des tests et les deux ont été compatibles. Et la décision est venue que moi, j'ai donné mon rein à ma fille Noémie en 2015. Alors, ça fait 5 ans de ça, elle avait 10 ans. Puis, le fait de la dialyse, je vous dirais peut-être pendant 3 mois, juste avant sa greffe, avant que son rein soit à 8%. Puis, l'opération a super bien été. Nous, on habite en Ontario, mais la greffe s'est faite à Montréal, à l'hôpital des enfants de Montréal, parce qu'on habite entre Montréal et Ottawa, en fait. L'opération s'est bien passée. Noémie va super bien aujourd'hui. Elle est à l'école en 10e année. Et moi, je voulais juste dire un commentaire. C'est un beau geste d'amour de Linda d'avoir fait ça pour sa sœur. Écoute, c'est juste un addon qu'en m'en allant à la maison, j'écoutais votre chaîne de radio et j'ai entendu tous les commentaires. Puis là, j'avais envie de pleurer. C'est tellement important, les dons d'organes, et de montrer et d'éduquer les jeunes aujourd'hui ce que c'est.
Merci. Merci, ça. Martine, en tous les cas. Donc, votre ado de 15 ans va bien?
Bien, merci.
Ah, ben tant mieux. Merci beaucoup.
Merci.
Je lisais, Dr Marcellet, est-ce que le don vivant en ce moment, est-ce que j'ai bien compris ou il n'y en a pas à cause de la COVID?
Ça a été le programme de don vivant de rein au printemps. Ça a été arrêté pendant quelques semaines. À ma connaissance, ça a été redémarré et ce n'est pas arrêté, à moins qu'il y ait une nouvelle que je ne connaisse pas, là, que je ne sois pas au courant. Mais c'est le don vivant a été interrompu pendant quelques semaines au printemps et à ma connaissance, ça a été redémarré. Il faudrait vérifier avec les programmes.
Oui, effectivement. D'après ce que je peux comprendre de Transplant Québec, c'est qu'on semble dire que le... en temps de COVID, là, le don vivant, c'est ce que j'ai compris de leur communiqué, mais peut-être que ça a changé là, par rapport à depuis l'automne. Là. On a, sur la question de la COVID, d'ailleurs, Sandra qui est toujours avec nous, très rapidement, Sandra, vous l'avez eu, la COVID?
Oui, j'ai eu la COVID au printemps, effectivement.
Comment ça s'est passé?
Bon, ben, ça n'a pas été facile.
Parce qu'il y a un risque accru quand on est immunosupprimé.
Ben effectivement, il y a un risque accru, même si j'ai pris toutes mes précautions. Vraiment, ça fait partie de mon hygiène de vie par rapport à ça. Mais j'ai dû faire un petit arrêt à l'hôpital pour une question tout autre. Et en ressortant de là, ben j'ai malheureusement eu la COVID. Mais moi, mon symptôme principal a été vraiment la fatigue extrême. Puis je vous dirais qu'encore aujourd'hui, Si je me donne un petit peu trop, parce que je suis assez intense, je peux être assez intense. Alors, si je me donne un petit peu trop, ben c'est là que je vois beaucoup plus rapidement les effets. Là, je dois avoir encore plus une hygiène de vie exemplaire. Là,
c'est sûr. Et merci beaucoup, Sandra Salvoni. Merci beaucoup à votre sœur, Linda. Merci bien. Merci, Dr. Pierre Marcellet, de nous avoir parlé du don d'organes. C'est toujours important d'en parler. Je vous rappelle le défi chaîne de vie. Puis, pour terminer là-dessus, je veux juste vous faire entendre le témoignage d'Alika Tanguay, qui est une jeune de secondaire 5 dont la grand-mère a été greffée. Et pour elle, c'est vraiment un sujet important. Donc, dis-moi, toi, tu as décidé de sensibiliser la population au don d'organes. Tu voulais le faire, d'ailleurs, par le biais de cette entrevue à la radio, mais qu'est-ce que tu fais d'autre?
Moi, je suis en secondaire 5, je suis dans le programme international PAI, et on a un projet à faire, et moi, j'ai décidé de sensibiliser les gens au don d'organes parce que c'est pas mal la seule façon qu'on peut sauver des vies quand nos organes ne fonctionnent plus très bien. Et j'en parle souvent avec les gens alentour de moi pour les sensibiliser, en parler le plus possible pour leur faire réaliser l'importance d'un organe.
Donc toi, t'encourages tes collègues à l'école à signer leur carte d'assurance maladie à l'endo, le petit collant là qui donne en fait comme mandat au moment du décès de respecter nos dernières volontés. Hein? C'est un petit peu ça dans le fond.
Oui, exactement. Mais le plus important, je trouve, c'est pas juste de signer la carte.
Donc dis-moi, toi, t'as décidé de... Oui, alors, c'est pas juste de signer la carte, Alika allait nous le dire, mais bien également d'en parler en famille